Le grand jury RTL, Le Figaro, LCI, invité la présidente socialiste de la région Poitou-Charentes, Ségolène Royal. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis.
Bienvenue dans le grand studio d'RTL pour ce grand jury dont vous êtes l'invité, Ségolène Royal. Bonsoir.
Bonsoir.
À mes côtés pour vous interroger, Étienne Moujotte du Figaro, Frédéric Delpech d'LCI. La page des primaires se tourne au PS. Ça a été dur pour vous, ce sont vos mots. Mais depuis, on vous a vu combative. Votre soutien à François Hollande a été jugé décisif par beaucoup de socialistes entre les deux tours. On sera donc attentif à ce que vous nous direz sur vos intentions, votre avenir, votre rôle dans la campagne. Mais bien sûr, priorité à l'actualité, ce dimanche, c'est l'euro, l'Europe qui joue leur survie à Bruxelles. Conférence de presse conjointe d'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy il y a une heure pour dire que les choses avancent, mais que les décisions ne seront pas prises avant mercredi, encore un délai. Ségolène Royal, que vous inspire ce suspense, cette situation de quitte ou double?
Ce délai, justement, dure depuis très longtemps. J'ai là sous les yeux le communiqué commun, c'est-à-dire la déclaration commune d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy du 21 juillet 2011. En deux mots, que disent-ils ? Nous sommes fermement engagés en faveur d'une meilleure gouvernance économique de la zone euro et nous prendrons des décisions avant la fin du mois d'août. Ils se sont à nouveau réunis le 16 août 2011. Et en tant que vice-présidente de l'Internationale Socialiste, vous vous souvenez peut-être, je leur ai adressé un courrier à tous les deux. Et ce qui me frappe en relisant cette lettre que j'ai dit ici, c'est que les solutions qui étaient déjà émergentes, non seulement le 16 août 2011, mais déjà après la crise de 2008, ne sont toujours pas mises en application. Or, l'Europe ne peut s'en sortir que si le couple franco-allemand fonctionne bien.
Le couple franco-allemand a tardé à réagir.
Il a non seulement tardé à réagir, mais nous avons assisté au cours de ces derniers jours à une dispute entre les deux chefs d'État qui ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Et donc, lorsque l'Allemagne et la France ne sont plus sur la même longueur d'onde, c'est l'ensemble des pays européens qui sont fragilisés. Donc, à chaque fois, ça devient lassant. Nous disons, il y a maintenant une urgence, il faut qu'ils se décident, il faut qu'enfin des décisions opérationnelles sortent. À chaque fois, il y a des déclarations communes, de bonnes intentions, mais les décisions tardent à suivre. Or, ces décisions, elles sont communes. Pourquoi n'y a-t-il pas toujours un gouvernement économique de la zone euro qui, sous le contrôle des parlements, pourrait décider des politiques fiscales, des politiques budgétaires et des politiques de relance? Pourquoi n'y a-t-il pas encore, je l'avais proposé, un ministre commun franco-allemand des finances, qui n'empêche pas, bien sûr, chaque pays d'avoir son ministre de l'économie et des finances, mais pourquoi n'y a-t-il pas une personne commune à la France et à l'Allemagne qui permet de préparer les convergences avant que les chefs d'État ne se réunissent? Pourquoi n'y a-t-il pas toujours l'interdiction aux établissements bancaires de spéculer sur les dettes publiques? Ça aussi, ça avait déjà été annoncé en juillet dernier. C'est la troisième décision opérationnelle. Et enfin, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de plan de relance économique? On ne va pas continuer dans cette spirale que j'appelle une spirale diabolique. C'est une spirale diabolique que subissent aujourd'hui les peuples d'Europe. Et cette spirale diabolique, je vous le dis, va mal finir parce qu'il y aura des révoltes populaires. Vous avez vu aujourd'hui les manifestations en Allemagne. Pour qu'il y ait des manifestations en Allemagne, il faut vraiment que les gens soient très énervés.
Un mot sur
cette dispute. Parce que d'habitude, ils sont très disciplinés.
Un mot sur cette dispute franco-allemande. Vous dites que Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ne se sont pas entendus. Ils sont du même bord politique. Comment François Hollande, s'il était élu, s'entendrait, lui, avec l'Allemagne?
Mais parce qu'il prendrait les décisions qui s'imposent. Comment se fait-il qu'il y ait des communiqués, je le répète, des communiqués communs des deux chefs d'État qui sont encore aujourd'hui aux responsabilités et qu'aucune décision ne soit prise? Je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que ce sont les banques qui commandent.
Non.
Si, ce sont les banques.
Et deuxièmement,
juste un mot.
Et l'Allemagne sont différentes. Et que l'Allemagne ne veut pas payer. Vous savez, le fameux l'Allemagne paiera. Ouais. L'Allemagne ne veut plus payer. Donc, il y a vraiment deux positions à rapprocher. On ne peut pas comme ça. Vous avez l'air de dire, il suffit de dire on est d'accord. Mais non. La grande difficulté est de rapprocher la France et l'Allemagne et ensuite de faire voter les 17.
Mais vous avez raison. Mais la France et l'Allemagne peuvent très bien travailler à ce qu'il y ait des convergences. C'est bien ce que François Mitterrand avait fait à un moment. Lorsque la première ministre anglaise demandait « Give me my money back » à un moment, elle mettait l'Europe.
Rendez-moi l'argent.
Rendez-moi l'argent. C'est un peu ce que font les Allemands aujourd'hui. Eh bien, il y a la volonté politique ensuite qui se substitue à cela. Pourquoi est-ce qu'au mois d'août, Nicolas Sarkozy a cédé sur les euro-obligations?
Parce qu'elle n'en voulait pas.
Parce qu'elle n'en voulait pas. Et pourquoi n'ont-ils pas continué à discuter? Car ce que disait le ministre des Finances...
Ils continuent à discuter, ils sont encore en train de discuter ce soir.
C'est un peu tard. À quelle date sommes-nous aujourd'hui? Donc, pourquoi est-ce que, lorsque le ministre des Finances allemand dit, au mois d'août, nous ne voulons pas des euro-obligations pour que les mauvais élèves ne paye pas moins que les bons élèves, c'était l'argument assez simple qui n'est pas faux d'ailleurs. Pourquoi, à partir de cette position-là, la France ne s'est-elle pas mise au travail pour faire converger les points de vue? C'était assez simple. Alors, il suffisait de donner satisfaction à l'Allemagne en disant, si vous acceptez les euro-obligations pour les auditeurs, je rappelle que les euro-obligations, c'est l'idée toute simple, qu'en se mettant en commun les pays européens...
Mutualiser la dette.
Il faut être plus précis parce que les gens ont du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, il y a un gros déficit démocratique. J'y reviendrai tout à l'heure. Les auditeurs comprennent bien, ça veut dire quoi les euro-obligations? Ça veut dire que les pays se mettent ensemble pour emprunter et donc que c'est moins cher puisqu'ils cessent de se faire concurrence les uns contre les autres vis-à-vis des banques qui en profitent. Si les pays européens se font concurrence, alors les banques en profitent et relèvent les taux sur les pays qui sont les plus endettés.
Mais Ségolène Royal, expliquez-nous comment François Hollande réussirait à convaincre Angela Merkel là où Nicolas Sarkozy pour l'instant n'a pas réussi.
Mais c'est très simple, il dirait en échange des euro-obligations, c'est-à-dire en échange d'une solidarité européenne qui se traduirait par le fait d'emprunter collectivement au système bancaire et donc d'imposer au système bancaire des taux d'intérêt au lieu de les subir. En contrepartie, on met en place un système franco-allemand ou un système de gouvernement économique européen qui contrôle, en effet, la bonne gestion. Mais attendez, laissez-moi finir ma phrase. La bonne gestion des fonds publics par les États qui vont profiter de ces euro-obligations. Le système va aller dans le mur, vous le savez bien. On continue à imposer de l'austérité au peuple.
Question de Frédéric Delpech.
Pour revenir quand même à ce qui se joue aujourd'hui à Bruxelles, il y a des choses très précises qui sont en discussion, comme par exemple renforcer le fonds de secours. Alors la France souhaitait l'adosser à ce que ce fonds de secours puisse emprunter auprès de la BCE, ce que les Allemands ne veulent pas. Quelle est votre position? Est-ce que vous souhaitez par exemple également qu'il y ait une recapitalisation des banques? Et de quelle manière? Alors là, ce sont les discussions qui ont lieu en ce moment à Bruxelles. Donc quelle est votre position par rapport à ces discussions?
Alors, je voudrais dire trois choses. D'abord, les banques auraient dû être beaucoup plus prudentes. Parce que si l'on parle aujourd'hui de recapitalisation bancaire, qu'est-ce que ça veut dire pour nos auditeurs? Ça veut dire qu'il faut, disons, que les banques gardent au moins 10% de fonds propres, en fonds propres dans leurs ressources. Les fameuses règles prudentielles de Bâle disent 7%. Qu'est-ce que ça veut dire? J'explique très clairement pour que les gens comprennent. Ça veut dire que, pour être prudent, il faut garder des fonds propres, parce que sinon, ça met en difficulté les dépôts que vous recevez des gens. Et donc, il vaut mieux, pour être solvable, avoir un peu de fonds propres dans ses caisses. Comment se fait-il que les banques, aujourd'hui, n'aient pas gardé un minimum de fonds propres? Parce qu'elles y sont obligées par la réglementation interbancaire. Donc déjà, elles se sont très mal comportées. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'aujourd'hui, si l'on aide les banques à se recapitaliser, c'est-à-dire si une fois de plus les États...
De l'argent public ou privé, comme le souhaitent plutôt les Allemands?
Il vaudrait mieux de l'argent privé, c'est-à-dire que les banques commencent à organiser la solidarité entre elles, entre celles qui ont gagné et celles qui ont perdu. Et pour cela, il faut que les États rentrent au conseil d'administration des banques. Ça serait un signal très bénéfique pour l'équilibre économique, parce que ça voudrait dire qu'enfin, ce ne sont plus les banques qui commandent, mais que les chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire les représentants des peuples, entre dans le conseil d'administration des banques pour vérifier ce qui s'y fait.
On a des mauvais souvenirs, le Crédit Lyonnais, il y avait l'État et ça c'est quand même...
Ce n'est pas la solution miracle. Mais sans cette solution-là, les banques vont continuer à spéculer et à mettre les peuples à genoux. Et c'est si vrai, quand je parle de spirale diabolique, c'est que lorsque la note d'un État est dégradée, comme aujourd'hui la menace pèse sur la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un État est fragilisé. Ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait qu'un État va emprunter avec des taux d'intérêt supérieurs. Autrement dit, lorsqu'une agence de notation liée au système bancaire dégrade la note d'un État, ça produit l'effet pervers suivant, c'est que les banques vont s'enrichir puisque les taux d'intérêt vont augmenter. Est-ce que ce système est encore supportable, est encore tenable? Il ne l'est plus. Donc comment est-ce qu'on le réforme? On le réforme de façon très simple, c'est qu'en disant très clairement aux banques qu'aujourd'hui, l'essentiel de leurs ressources doit être consacré au développement économique des entreprises et non plus à la spéculation. Et la situation est extrêmement grave. On a vu ce qui se passe en Grèce, demain peut-être au Portugal, demain peut-être en France. Donc, pourquoi tant d'inertie?
Mais est-ce qu'il faut
pourquoi
la même fermeté
est-ce que les spéculateurs
vis-à-vis
sont plus
des
rapides que les politiques
que vis-à-vis de la Grèce, par exemple? Est-ce que vous êtes favorable à ce que les pressions soient plus importantes sur le gouvernement grec et par exemple aussi sur le gouvernement italien, puisqu'on a vu ce matin Silvio Berlusconi qui a été en quelque sorte convoqué par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy pour donner des gages supplémentaires.
Mais de quoi s'agit-il là? La question que vous posez, c'est de savoir si il faut imposer de l'austérité supplémentaire encore à la Grèce. Honnêtement, est-ce que c'est possible? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une fuite des cerveaux. Les gens partent de Grèce maintenant. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut redresser un pays en donnant un nouveau coup de bâton sur l'austérité? Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Est-ce que ça aggrave la situation? Oui, ça aggrave la situation. Pourquoi ça aggrave la situation? Puisque les marchés financiers, tant qu'on ne les aura pas, quand on n'aura pas imposé d'autres règles, recherchent des rendements à deux chiffres, c'est-à-dire... C'est pour ça que l'argent circule à toute vitesse et n'importe comment, puisque les fonds financiers veulent des rendements à deux chiffres, à plus de 10%. La croissance économique est à quel niveau? Elle vient d'être rabaissée en France avec des prévisions de 1%.
Ça veut dire, Allemagne aussi.
En Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on fabrique 1% de plus de richesse, de salaire, d'emploi, d'économie réelle. Et que les marchés financiers veulent, eux, des rendements
non, précisément,
à plus de 10%. Qui paye la différence?
Est-ce que
qui paye
vous
la
vous
différence
d'un mot
c'est la misère
d'abord.
Qui paye
Frédéric
la
Delpech
différence.
Parlait de l'Italie, juste d'un mot de politique. Est-ce que, pour vous, le départ de Silvio Berlusconi serait de nature à rétablir la confiance des Européens? C'est une question qui se pose en Europe et dans son pays.
Mais c'est disproportionné. Je veux dire, c'est le système financier global qu'il faut réformer. Et on a l'impression que c'est compliqué à faire. Mais le pire, c'est que ça n'est pas compliqué à faire. Donc pourquoi est-ce que le système bancaire a tant de pouvoir? Et en France, pourquoi le président de la République ne réunit-il pas les 5 grandes banques publiques, privées françaises? Pourquoi ne crée-t-on pas une banque publique d'aide, de financement des petites et moyennes entreprises qui serait financée par le prélèvement sur les mouvements financiers? Savez-vous que une taxe sur les mouvements de capitaux a été votée par le Parlement européen au mois de mars dernier et que ce vote n'est toujours pas appliqué?
Non, mais vous avez entendu Madame Merkel et Monsieur Sarkozy ont redit aujourd'hui qu'ils sont pour, mais il y a les 17 autres et même les 27.
Eh ben, faisons-le déjà à deux.
Et le G20 derrière.
Et continuons. Alors, ça, c'est et dans la banque et dans la zone euro des 17 pays, faisons-le dans les 17 pays.
Pour les banques françaises, mais là sur ce plan ce vaste plan européen, est-ce que vous en approuvez l'architecture globale telle qu'elle se dessine, telle qu'elle devrait peut-être être annoncée mercredi?
Mais quelles sont les grandes perspectives à part l'intervention du fonds de stabilité?
D'un mot, ce qui se dessinait, c'était 50% des 350 milliards d'euros que doit la Grèce seraient effacés. Les banques prendraient leurs pertes. Et puis, effectivement, il y a la question du statut du fonds du FESF, du fonds européen. Est-ce que, socialistes étaient au pouvoir, les choses prendraient? Est-ce qu'il y a un autre chemin possible, tout simplement, Ségolène Royal?
Mais bien sûr qu'il y a
un autre
chemin possible.
Je peux préciser la question. Vous avez parlé tout à l'heure de plan de relance économique.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous étiez aux affaires ou quand vous y serez, oui, comment vous allez relancer l'économie sans creuser la dette et risquer la dégradation, la perte de la fameuse note 3A?
Je le fais selon les règles que le Parlement européen a voté le 8 mars 2011 et que j'ai là sous les yeux.
Eh ben, allons-y alors.
Comment se fait-il d'abord qu'une décision du Parlement européen votée le 8 mars 2011 ne soit toujours pas en application? Qu'a voté le Parlement européen? Une taxe sur les mouvements de capitaux. Cette taxe sur les mouvements de capitaux était destinée à financer le plan de relance de l'activité économique des entreprises et notamment des petites et moyennes entreprises. Donc voilà une solution très simple. Nous avons quand même des perspectives de développement économique dans le domaine de la croissance verte, de la mutation énergétique, des biotechnologies, des nouveaux matériaux, des transports publics. Bref, il y a des champs considérables de développement industriel. Et que voit-on aujourd'hui ? L'Europe, et notamment la France, qui perd son industrie parce que les banques ne font pas leur travail de prêt à l'économie et aux entreprises.
Cette histoire de taxes sur les transactions financières dont vous parliez à l'instant, il faudrait pour cela que non seulement le Parlement européen soit d'accord, ça c'est une chose, mais que les gouvernements soient d'accord, ce qui n'est pas le cas.
Mais écoutez, alors là, il n'y a plus de démocratie alors. Le Parlement européen ne sert plus à rien. D'ailleurs, ce que vous dites est assez juste. C'est ce que l'on observe. C'est un grave dysfonctionnement de l'ensemble des institutions. Que voit-on ? Un Parlement européen qui vote des textes qui ne sont pas appliqués. Alors que, normalement, ensuite, ces textes, chaque État doit s'en saisir, chaque gouvernement doit s'en saisir, le Conseil européen doit s'en saisir, et les parlements nationaux doivent mettre en application les règles votées par le Parlement européen. C'était une avancée considérable. Ça n'a pas été facile d'obtenir ce vote majoritaire au Parlement européen, taxer les mouvements de capitaux. Je peux vous dire qu'il y en a eu des actions de lobbying auprès du Parlement européen pour que ce dispositif ne soit pas voté. Donc nous l'avons. Appliquons-le et réinjectons cet argent dans le développement économique des PME parce qu'on sait que c'est là que l'on peut créer des activités, des emplois et de la valeur ajoutée. On ne sortira pas de la crise actuelle si on ne relance pas la création de richesses.
Je voudrais qu'on parle du budget français qui est examiné depuis cette semaine à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, les prévisions de croissance vont être révisées à la baisse. Est-ce que ce budget est déjà caduque ?
Écoutez, ce qui est important, c'est que les prévisions de croissance qui ont été revues à la baisse soient contrecarrées. Ce qui est important, je le répète, la proposition que nous faisons, qui est d'ailleurs dans le projet des socialistes, et qui est une idée que j'ai défendue depuis longtemps, c'est la création d'une banque publique de financement des PME. Moi, je veux que la France soit un pays d'entrepreneurs. Mais qu'est-ce que c'est que la croissance ?
C'est la création de richesses.
C'est la création de richesses. Qui crée des richesses en France ?
Les entreprises. Les entreprises. Et ceux qui travaillent dedans.
Et parmi les entreprises, qui crée des richesses ? Les PME. Ce sont elles qui créent des richesses. Or, ce sont elles qui sont imposées à plus de 30%, tandis que les entreprises du CAC 40 qui ne créent aucune richesse et qui pressurent leurs entreprises sous-traitantes ne payent que 9% d'impôts sur les sociétés. Commençons par changer cela. Moi, je suis très optimiste par rapport au potentiel du pays. Donc, n'étouffons pas la croissance économique. Et là, nous avons un budget qui étouffe la croissance économique parce que elle ne réforme pas la fiscalité des entreprises, qui serait un des leviers de développement économique. Ce budget ne met pas les priorités sur le développement écologique. Or, on sait que c'est dans le développement écologique que se trouvent les ressources et les gisements de création d'activités et d'emplois. Et enfin, elle ne crée pas cette banque publique, même s'il y en a une certaine préfiguration, ce qui est assez amusant, puisque Nicolas Sarkozy lui-même, après avoir dit que la proposition que j'avais faite était une absurdité, finalement a demandé à la Caisse des dépôts de regrouper l'ensemble des financeurs publics au service des petites et moyennes entreprises. Et ça, ça va dans la bonne direction, mais il faudrait accélérer les choses parce que la situation économique des PME est extrêmement fragile.
Ce budget 2012 avait été calculé avec une prévision de croissance à 1,5% qui devrait a priori être revu autour de 0,9%. Est-ce que vous vous attendez à ce que le gouvernement annonce une nouvelle série de mesures de rigueur d'ici l'élection présidentielle, par exemple ? Et est-ce que le gouvernement a d'autres choix que d'annoncer de nouvelles mesures de rigueur pour récolter peut-être 5-6 milliards de plus?
Ça, c'est à lui d'en décider. On avait fait des propositions pour la réduction d'un certain nombre de niches fiscales. Moi, j'avais demandé que le remboursement du bouclier fiscal de 1,5 milliard soit demandé à ceux qui en ont profité. Je propose aussi que l'on regarde du côté de la fraude fiscale, 40 milliards d'euros de fraude fiscale. S'il y avait une véritable volonté politique pour lutter contre la fraude fiscale, voilà de l'argent public qui pourrait revenir
dans les caisses de l'État. Vous pensez qu'il y aura un nouveau plan de rigueur ?
Ah, ça, je ne sais pas quel est le nouveau. Moi, ce que je veux, c'est de la bonne gestion économique. C'est pas frapper aveuglément. Pourquoi ne pas frapper aveuglément ? Quand on ne remplace pas, par exemple, un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite de façon aveugle et qu'on affaiblit les services publics, eh ben, je vais vous dire, on affaiblit aussi la compétitivité économique du pays. Ce que j'attends, c'est, je vous le dis en priorité, c'est le remboursement du bouclier fiscal, c'est la lutte contre la fraude fiscale, c'est la suppression d'un certain nombre de niches fiscales. Les députés socialistes ont fait des dizaines d'amendements au cours des jours qui viennent de s'écouler pour supprimer un certain nombre de niches fiscales. J'espère qu'ils seront entendus par le gouvernement. Mais ce que je ne veux pas, c'est de l'austérité, c'est-à-dire la baisse des retraites, la baisse des salaires, la baisse du pouvoir d'achat, la baisse des services publics, parce que ça, ça paupérise les gens. Et si je peux rajouter une chose, au cours de cette campagne des primaires, vous savez, moi, ce qui m'a frappé, vraiment, hein, c'est la montée de la misère, la montée de la précarité, la montée de la pauvreté. Et je ne voudrais rappeler qu'une réalité vraiment tragique dans un pays comme la France, c'est qu'aujourd'hui, une personne sur trois déclare avoir renoncé à se soigner faute de moyens financiers. Eh bien, moi, je veux autre chose pour notre pays, qui est celui qui a inventé la sécurité sociale.
Question d'Étienne Moulotte.
Vous dites très souvent, je suis hostile à une augmentation des impôts et vous prenez comme exemple votre région. Si vous n'augmentez pas les impôts, même en réduisant les niches fiscales, il faudra bien baisser les dépenses. Est-ce que vous admettez qu'il y a des dépenses à baisser au niveau des fonctionnaires ou à d'autres niveaux? Ou est-ce que il ne faut pas y toucher? Est-ce que c'est vache sacrée, on n'y touche pas?
Non, non, il faut toujours réformer, il faut toujours s'améliorer. Je pense vraiment que l'État pourrait être plus efficace et qu'il faut redéfinir l'équilibre des pouvoirs entre le pouvoir central et les collectivités territoriales. Je pense vraiment que l'on peut dépenser mieux. Y compris les collectivités territoriales, mais vous avez parfaitement raison. Souvent dans l'enchevêtrement des compétences entre les départements, les régions, les communautés de communes, les syndicats de pays, il y a une accumulation de strates. Tous les élus locaux le savent. Et il y a, j'en suis sûre, des économies à faire sur une meilleure organisation des circuits et des flux financiers publics.
Il faut baisser le nombre de fonctionnaires quand même. C'est pas la panacée, mais il faut bien y arriver.
Mais il faut mettre les fonctionnaires là où ils sont utiles. Il faut avoir le courage d'en supprimer un certain nombre là où il faut le faire, peut-être dans les administrations centrales de l'État, pas facile, peut-être à l'administration du ministère de l'économie et des finances, il y a sans doute des économies à faire, parce qu'avec l'informatisation de toutes les procédures, il y a sans doute des économies à faire du côté des administrations centrales. Vous noterez qu'on n'en parle jamais. Il y a aussi peut-être des économies d'emploi à faire du côté du système bancaire. On n'en parle jamais non plus.
Mais
par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on met toujours en cause les fonctionnaires. Et jamais d'autres structures comme aller voir le luxe des... Les gens sont très choqués d'ailleurs. Aller voir le luxe des sièges sociaux, des banques, des administrations seraient logées comme sont les banques aujourd'hui. Oui, on dirait à quoi ça ressemble.
Le remplacement d'un fonctionnaire sur deux, par exemple, est-ce que c'est une mesure sur laquelle vous souhaiterez revenir si vous êtes... si le Parti Socialiste, en tout cas, accède au pouvoir l'année prochaine?
Oui, nous reviendrons sur ce principe. Pourquoi? Parce que c'est un principe aveugle. Il faut le faire là où on peut le faire, mais il ne faut pas le faire là.
Mais si c'est pas imposé,
par exemple dans le domaine
si les choses ne sont pas imposées, elles se font pas vraiment. Si c'est pas imposé par l'État, s'il n'y a pas une règle qui est fixée par l'État, c'est difficile. Après, c'est à la discrétion des ministères.
Mais on peut imposer des règles, mais pas faire des règles absurdes et aveugles. Vous voyez bien ce qui se passe dans l'éducation nationale. Ce système absurde a entraîné vraiment une dégradation du système éducatif. Or, si l'on veut lutter contre la crise, c'est certainement pas sur l'éducation et sur la formation qu'il faut rabattre, certainement pas.
Vous êtes favorable à la création de 60 000 emplois dans l'éducation nationale sur les 5 ans du quinquennat, comme le propose François Hollande?
Écoutez, moi j'ai toujours dit que dans ce domaine-là, il faudrait en effet étaler sur les 5 années la reconquête de ce qui a été perdu dans l'éducation nationale.
En engageant du personnel.
Donc
des dépenses.
Bien oui, c'est le projet de notre candidat à l'élection présidentielle.
Et on finance comment?
Eh bien, on fait des économies. On fait des économies par ailleurs, et je crois que ça a été chiffré, puisque les économies faites par ailleurs sont précisément les économies faites sur la suppression d'un certain nombre de niches fiscales.
On va passer à un autre sujet peut-être avant de marquer une pause dans ce grand jury. La politique étrangère. Aujourd'hui, les Tunisiens ont voté. La participation, alors qu'il est massif, plus de 70%. On imagine que ça vous réjouit.
Oui, et ce qui était touchant, c'est de voir l'émotion des hommes et des femmes qui allaient voter. On voyait des hommes et des femmes vraiment très émus, disant que jamais ils n'avaient imaginé que ça pourrait leur arriver. Mais et certains si... qui disaient, je me sens aujourd'hui vraiment un être humain à part entière parce que j'ai fait cet accomplissement du droit de vote. Et je trouve que c'est très beau, ce vote des Tunisiens.
Et même si on prévoit une poussée des islamistes, et donc on ne sait pas ce qui ressortira au bout du compte de ce printemps arabe et de la chute de Ben Ali.
Écoutez, c'est la démocratie. Donc, prenons la démocratie comme elle l'est, respectons le verdict des urnes, attendons d'ailleurs ce verdict des urnes, et surtout aidons les Tunisiens à reconstruire leur État, déjà, leur école aussi, il y a beaucoup de problèmes du côté de l'éducation en Tunisie, et à remonter la pente, parce que c'est un pays qui recèle là aussi beaucoup de ressources en lui-même, de potentiel, et de tout mon cœur, je souhaite vraiment que le niveau de vie des Tunisiens, après cet accès à la démocratie, puisse se concrétiser, parce que c'est cela que les gens attendent maintenant, hein, c'est la défense et l'augmentation de leur niveau de vie.
Il y a la Tunisie, mais il y a aussi la Libye. Est-ce que vous avez été choqué par les images qu'on a vues sur les télévisions ces trois derniers jours, du corps du colonel Kadhafi qui était exhibé, et des images un peu contradictoires qui laissent une ombre sur ce qui a pu se passer ces derniers jours?
Pas vraiment. Pas vraiment. Je crois qu'il n'y a aucun regret à avoir sur la disparition de ce dictateur qui va permettre, là aussi, au peuple libyen, dont il faut vraiment remercier et saluer le courage, hein, et souligner aussi l'immense souffrance qu'a vécu et qu'a traversé ce peuple. Et aujourd'hui, là aussi, hein, les pays démocratiques ont un rôle à jouer, non pas pour s'ingérer dans les affaires libyennes, dans les affaires tunisiennes, et pour décider ce qui est bon, ce qui est mauvais en termes de vote et d'accès à la démocratie. Soyons très prudents sur toutes les tentations d'ingérence, puisque derrière, on le sait, il y a des enjeux économiques très importants. Donc respectons la liberté des peuples, l'autodétermination de ces peuples, et aidons-les à restructurer surtout leur appareil d'État. C'est ça qui est très fragilisant pour ces pays, très problématique. C'est que lorsqu'un dictateur disparaît, l'État disparaît avec lui, et donc les structures administratives de l'État de droit sont gravement fragilisées. Et c'est de cela dont ces pays ont
l'air. Est-ce que vous faites crédit au moins à Nicolas Sarkozy d'être intervenu et donc d'être pour quelque chose dans la chute de Muammar Kadhafi?
Mais l'opposition a soutenu. Nous avons voté à l'Assemblée nationale, hein, cette intervention. Donc, sous l'égide de l'ONU, d'ailleurs. Hein, donc, il n'y a pas de problème là-dessus, oui.
Ce n'est pas un succès personnel pour Nicolas Sarkozy?
Écoutez, on ne va pas non plus... Non, ce n'est pas un succès personnel pour Nicolas Sarkozy. Il est chef des armées, mais enfin, il y a d'abord l'hommage à rendre à nos forces armées. Et puis, l'Union nationale a été très claire sur ce sujet-là. Donc, il en a pris l'initiative, mais vraiment appuyé par la majorité et par l'opposition. Donc, je crois que aucun responsable politique ne doit tirer à lui la couverture de je ne sais quelle opération, parce qu'on ne sait jamais comment l'opération aurait pu terminer. Voilà, donc je crois que dans ces domaines-là, il faut avoir beaucoup de réserve et de pudeur, et ne pas chercher à exploiter ou à capitaliser.
Ça justifie aussi qu'on soit rentré dans l'OTAN, parce qu'au fond, c'est bien passé avec
l'OTAN. On ne va pas ouvrir le débat maintenant, parce que on va marquer une première pause dans ce grand jury. On va se retrouver dans deux petites minutes. C'est l'heure des infos sur RTL. À tout de suite.